Le journal présenté par Stéphane Genest.
Bonjour à toutes et à tous. Rebondissement dans l'affaire Griveaux. La compagne de Piotr Pavlensky a été interpellée et placée en garde à vue pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Piotr Pavlensky a quant à lui été mis en examen pour des faits de violence volontaire avec armes commis lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Nous ferons le point en début de ce journal. Dernier débat ce dimanche dans le cadre de la conférence sur la sécurité internationale de Munich. Les discussions sont consacrées à la crise libyenne. Nous retrouverons notre correspondant sur place. 1700 personnes sont mortes après avoir contracté le coronavirus. Et au Japon, tous les regards sont tournés vers un bateau, le Diamond Princess, où des cas de coronavirus ont été détectés. Et enfin, dans une dizaine de minutes, la face cachée du globe de ce dimanche nous emmènera en Afrique avec Nabil Epstein. On l'a appris ce matin, la compagne de Piotr Pavlensky a été interpellée et placée en garde à vue. La jeune femme de 29 ans est soupçonnée d'avoir été la destinataire des vidéos intimes ayant poussé Benjamin Griveaux à retirer sa candidature à la mairie de Paris. Selon le parquet de Paris, elle a été placée en garde à vue pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'image à caractère sexuel. Dans le cadre de l'enquête ouverte samedi à la suite du dépôt de plainte de Benjamin Griveaux, Piotr Pavlensky a quant à lui été également placé en garde à vue pour d'autres faits, notamment pour des violences commises le soir du 31 décembre dernier. En 24 heures, le calendrier judiciaire s'est donc accéléré pour l'homme présenté comme le tombeur de Benjamin Griveaux. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour Stéphane.
Le président de la République Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé clairement sur le sujet, mais a glissé quelques allusions entre les lignes lors d'une prise de parole hier.
Emmanuel Macron, effectivement, a profité de la conférence de Munich sur la sécurité pour mettre en garde contre l'ingérence russe, ce qu'il n'avait pas fait depuis le début de son mandat. Après quelques mois d'apaisement avec la Russie, les mots du président français ont été très forts hier pour dénoncer les tentatives de déstabilisation de processus électoraux en provenance de Russie. Et difficile, effectivement, de ne pas faire le lien entre le discours d'Emmanuel Macron et cette affaire Pavlensky. Pour Bruno Ketel, député LREM de l'Eure, l'activiste russe a voulu interférer dans la vie politique française.
Ce monsieur ne s'en prive pas quelque part lorsqu'il déclare vouloir s'en prendre, je cite, au macronisme d'une manière générale. Bien évidemment qu'à travers la candidature de Paris, c'est le président de la République qui est visé parce que l'intérêt est de déstabiliser le président de la République, celles et ceux qui l'entourent, de la part de femmes et d'hommes qui n'ont jamais accepté le résultat de 2017.
Et la majorité présidentielle semble vouloir faire corps autour du président depuis le retrait de Benjamin Griveaux en demandant explicitement, comme l'a fait Bruno Ketel ce matin, la fin du statut de réfugié politique de Piotr Pavlensky, ce qui pose problème à Philippe Bilger, magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole, pour qui la situation serait inédite.
Je ne crois pas que ce soit arrivé, me semble-t-il, mais je ne voudrais pas qu'on se serve de cette affaire assez nauséabonde par ailleurs pour prendre des mesures extrêmes à l'égard de quelqu'un qui, aussi antipathique qu'il puisse apparaître à certains, a droit à l'état de droit. Alors ensuite, savoir ce qui va se produire, je n'en sais pas plus que vous.
Et en cette mi-journée, La République En Marche n'a toujours pas de candidat pour la mairie de Paris, ce qui montre que d'où qu'elle vienne, la tentative de déstabilisation a réussi.
Merci beaucoup Sarah Ders. Et Benjamin Griveaux s'étant retiré de la course à la mairie de Paris, les cadres de La République En Marche cherchent encore quelqu'un qui pourrait le remplacer. Les instances du parti sont réunies aujourd'hui, le nouveau candidat doit normalement être connu au plus tard en début de semaine. L'heure est à l'unité pour les membres du mouvement présidentiel. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, appelle à un large rassemblement derrière le successeur de Benjamin Griveaux. Dernière journée d'échange dans le cadre de la conférence sur la sécurité qui se déroule à Munich. Hier, Emmanuel Macron a pu s'exprimer. Il a pressé l'Allemagne à s'engager pour le futur de l'Union européenne. En marge de cette conférence, une réunion internationale sur la crise libyenne s'est déroulée ce matin. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour.
Et la communauté internationale s'inquiète de la situation dans la région.
Oui, tout ce qui avait été acté il y a moins d'un mois à Berlin n'est en rien respecté. Autrement dit, ce qui avait été considéré par beaucoup comme un succès diplomatique il y a un mois, comme une réussite aussi de l'Allemagne en tant que médiateur, en tant qu'intermédiaire, tout a été foulé au pied. Ni l'embargo sur les armes, ni le cessez-le-feu ne sont respectés en Libye. Une réalité que personne n'ignorait, mais la communauté internationale réunit ce matin à Munich pour la toute première réunion dite de suivi de cette conférence de Berlin du 19 janvier, n'a donc fait que prendre acte avec regret de cette situation en faisant le compte qu'en moins d'un mois, la résolution de l'ONU a été violée pas moins de 150 fois. Lors de cette réunion, l'envoyé spécial des Nations Unies n'a pu que réitérer un appel à toutes les parties à ne pas venir troubler le jeu libyen, notamment la Turquie ou la Russie, à cesser d'envoyer des armes, à inciter les deux ennemis à respecter une trêve, un sujet qui sera discuté une nouvelle fois à partir de mardi à Genève pour un second round de négociations. Ça ne sera pas réglé en une nuit, ça prendra du temps, a prévenu l'américaine Stephanie Williams, la numéro 2 de la mission des Nations Unies en Libye.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu, en direct de Munich. Le bilan du coronavirus ne cesse de s'alourdir. Près de 1700 personnes sont mortes après l'avoir contracté, principalement en Chine. Les autorités chinoises constatent que le nombre de nouveaux cas de coronavirus diminue de jour en jour. Ils estiment que leurs efforts commencent à porter leurs fruits. Cependant, à Tokyo, la situation s'aggrave d'heure en heure sur le paquebot de croisière Diamond Princess. Le bateau a été placé en quarantaine dans un port au sud de la capitale japonaise, ce qui inquiète les gouvernements des États-Unis, de Hong Kong et du Canada. Ils ont d'ailleurs décidé d'évacuer leurs ressortissants sains en urgence. Des avions spéciaux ont été affrétés et d'autres pays devraient prendre des décisions similaires. À Tokyo, Karine Nishimura.
Plus d'un dixième des passagers et membres d'équipage initialement présents sur le Diamond Princess ont d'ores et déjà été atteints par le nouveau coronavirus, alors même que leur confinement à bord devait les protéger. 67 nouveaux cas ont été révélés samedi, puis 70 dimanche, portant le total à 355. Or, ce n'est peut-être pas tout, car seulement 1200 personnes sur les 3700 initialement à bord ont jusqu'à présent été testées. Le gouvernement japonais dit ne pas disposer de capacité suffisante d'examen, d'autant que les cas augmentent aussi à terre. Plus de 50 personnes ont été testées positives dans différentes régions de l'archipel et la traçabilité des nouveaux cas est désormais difficile à établir.
À Tokyo, Karine Nishimura. L'Algérie fête un anniversaire aujourd'hui, celui du Hirak, ce mouvement qui a obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Encore aujourd'hui, des milliers d'Algériens se rassemblent dans les grandes villes du pays afin de réclamer une véritable rupture avec le système politique en place depuis l'indépendance en 1962. En Irak, la zone verte où se trouve l'ambassade américaine a une nouvelle fois été prise pour cible cette nuit à Bagdad. Plusieurs roquettes se sont abattues aux abords de l'infrastructure diplomatique sans faire de victimes ni de dégâts, selon les autorités. Les précisions de notre correspondante à Bagdad, Lucille Wasserman.
Trois explosions suivies des sirènes d'alarme de l'ambassade américaine ont une nouvelle fois brisé le silence de la nuit à Bagdad. À 3h30 du matin, heure locale, le quartier ultra sécurisé de la zone verte, où se trouvent la plupart des institutions politiques, a été pris pour cible. Trois roquettes Katyusha se sont écrasées aux abords de l'ambassade américaine, touchant notamment une base militaire où se trouvent les forces de la coalition internationale. Une attaque qui n'a pas fait de victimes selon les troupes sur place. Depuis octobre, 19 attaques similaires ont visé des installations utilisées par les États-Unis dans le pays. Ces tirs n'ont jamais été revendiqués, mais Washington accuse les groupes armés irakiens proches de Téhéran. L'une de ces attaques avait notamment tué un sous-traitant américain le 27 décembre dernier et déclenché l'escalade entre les États-Unis et l'Iran dans la région. Depuis l'assassinat du général Qassem Soleimani et du leader irakien Abu Mahdi al-Mohandes, certaines de ces factions ne cessent de menacer les États-Unis, promettant de venger les deux hommes. Des hostilités qui se sont intensifiées depuis une semaine et la fin des 40 jours de deuil observés par les chiites dans le pays.
Au Yémen, au moins 31 civils ont été tués hier dans des raids aériens. Ces bombardements ont eu lieu quelques heures après le crash d'un avion de combat saoudien de la coalition militaire engagée dans la guerre contre les rebelles, dont les piliers sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Pour le moment, aucun lien n'a été fait entre ces deux événements. Mike Pompeo en visite au Sénégal ce week-end. Il s'agit là de la première étape d'une tournée de quelques jours en Afrique qui le mènera ensuite en Angola, puis en Éthiopie. C'est la deuxième fois en 4 ans que les États-Unis envoient un secrétaire d'État sur le continent. Outre des discussions sur l'antiterrorisme, la bonne gouvernance, le développement et des déclarations de principe, Mike Pompeo fera-t-il, comme son prédécesseur Rex Tillerson? Avant d'être congédié au retour de sa tournée africaine en février 2018, il avait promis sur place 530 millions de dollars contre la famine et des partenariats privé-public pour que 300 millions d'Africains aient de l'électricité. On reste en Afrique pour la face cachée du globe de ce dimanche. Deux escales d'abord. Une en République démocratique du Congo avec l'interview d'un avocat à la cour d'appel de Kinshasa, Liévin Ngondji, et une rencontre avec Jean-Nicolas Marty, chef de la délégation au Mali du Comité international de la Croix-Rouge. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. Au Soudan du Sud, plus de 19 000 mineurs sont enrôlés, soit dans l'armée gouvernementale, soit dans les troupes d'opposition. La libération de ces enfants soldats nécessite les interventions d'ONG et d'institutions internationales. L'UNICEF a réintégré à la vie civile 3 677 garçons et filles depuis 2015. 2100 autres jeunes pourraient eux aussi retrouver la liberté cette année, dont 900 dès le mois prochain, à condition que les pays accordent 4,2 millions à l'Organisation onusienne des droits de l'enfant. Son programme de réintégration de 3 ans coûte 2 000 $ par enfant démobilisé. Si ces fonds nécessaires n'arrivent pas de toute urgence, nos programmes seront suspendus et les enfants pénalisés, alerte l'UNICEF. 2019 a été l'année la plus meurtrière au Mali. 456 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans une superposition de conflits. Guerre entre communautés, guerre entre forces et troupes armées par des appuis extérieurs, terrorisme, état de non-droit, autant de complexités de terrain qui laissent douter d'une rapide amélioration en 2020. Les conséquences humanitaires sont sans précédent. Jean-Nicolas Marty, chef de mission du Comité international de la Croix-Rouge au Mali.
Notre analyse de la situation dans le Sahel et les pays avoisinants du Mali est qu'il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées à l'intérieur des pays ou réfugiées dans les pays voisins au cours de ces dernières années. L'extension géographique du conflit, sa prolongation dans le temps, crée ces déplacements et fragilise ces populations. Les Nations Unies ont annoncé 1 million de personnes déplacées. Le conflit s'est étendu géographiquement à des régions qui sont beaucoup plus peuplées que les régions du Nord Mali, d'où tout a commencé en 2012. On est aussi présent depuis 2012 dans les zones conflictuelles pendant tout le pic de la crise, y compris du temps du contrôle des groupes armés sur le nord du Mali. Et les CICR ont tenté de répondre de manière coordonnée entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, dans cette région qu'on appelle le Liptako-Gourma, de telle façon à ce qu'il n'y ait personne qui soit laissé sur le bord du chemin et que toutes les populations puissent avoir accès à de l'assistance et de la protection. Ce sont effectivement d'abord les blessés de guerre dans les 3 hôpitaux que l'on soutient avec une présence du CICR permanente à Gao, Kidal et depuis l'année passée à Mopti-Sévaré, où on a traité plus de 600 blessés de guerre ou blessés par balles et par arme à feu. Et le directeur de l'hôpital me confirmait la semaine passée que sur ces 600 personnes qui avaient été admises à l'hôpital, aucune n'était décédée. Il est clair que la situation politico-sécuritaire ne s'améliore pas et que donc les conséquences humanitaires perdurent, voire s'aggravent dans certaines régions. Les personnes touchés sont les Maliens et les Maliennes eux-mêmes qui ne peuvent plus avoir accès à leur marché, accéder aux centres de santé, sans parler d'envoyer leurs enfants à l'école.
Bien qu'elle observe un moratoire depuis 2003, la République démocratique du Congo continue de condamner à la peine capitale des citoyens. Lievin Gondji, avocat à la cour d'appel de Kinshasa, dénonce les conditions de détention des locataires longue durée des couloirs de la mort. Il a dirigé le rapport vers une mort en silence.
Il y a un drame, ces personnes qui sont face à la mort. On pense qu'il y a le moratoire depuis 2003, ils ne risquent plus à leur vie. Sauf qu'au regard du traitement auquel ils sont soumis, c'est comme si on les laisse mourir. C'est inacceptable. On ne peut pas penser qu'au Congo on n'exécute plus. En fait, on a changé de mode d'exécution. De l'exécution officielle légale, on est passé à laisser mourir vers une mort en silence. Ils sont 510. Et la majorité n'a pas bénéficié d'une assistance juridique d'abord correcte. Les procès ont été les plus expéditifs possibles. C'est quand même terrible. Et les conditions dans lesquelles vivent ces gens sont en dessous de l'imagination humaine.
Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire, ce que vous avez vu?
Par exemple, vous avez une salle prévue pour une trentaine de personnes et dans laquelle vous y trouvez 500 personnes qui vivent. Et alors, autre chose, c'est que nous avons découvert, mais par pur hasard, le camp de détention d'Angenga, qui est une prison isolée au milieu de la forêt équatoriale. Et c'est là qu'on déporte littéralement beaucoup de condamnés à mort. Donc, les parents n'ont plus de nouvelles et nous, on est allé les dénicher là-bas. 260 qui sont là-bas. Incroyable.
Et condamnés pourquoi ?
La majorité, c'est des miliciens, c'est-à-dire les gens qui ont fait l'insurrection, qui ont fait la rébellion. Il y a une dizaine d'étrangers, dont d'origine belge, et il y a une seule femme qu'on a pu identifier.
On referme la face cachée du globe avec Joseph Chabalala. Le chanteur Zoulou est décédé à Pretoria cette semaine, à l'âge de 78 ans.
Merci beaucoup Nadine Epstein pour cette face cachée du globe à retrouver sur le site franceculture.fr. Un coup d'œil vers le ciel, Météo France a placé le Finistère et le Morbihan en vigilance orange, pluie, inondations et vents violents. La côte atlantique et la côte de la Manche sont balayées par la tempête Dennis, des rafales de vent jusqu'à 120 km/h sont à prévoir. Cet après-midi, des nuages et de la pluie donc sur le nord-ouest du pays ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, du soleil et de belles éclaircies. Du côté des températures, elles restent douces. Il fera 10 degrés à Brest et à Cherbourg, 13 à Lyon, 14 à Rodez, 16 à Paris et la maximale pour Pau avec 21 degrés. Midi 45 sur France Culture, un journal préparé avec Emmanuel Faucillon et Jean-Guilain Meige.